J'aimerais aujourd'hui revenir sur les fondements de l'identité chrétienne, les fondements de la foi chrétienne, très rapidement, par petits points comme ça, quelque part, voir en quoi est-ce que on est en conformité avec la théologie chrétienne. Vous voyez ? Donc, je vais aborder des points sans approfondir. Chaque point pourrait donner lieu à un message à part entière, mais on va balayer quelques petits points comme ça. Et vous allez vous demander si vous êtes OK ou pas. Si pour vous, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une réalité ou pas. Ouais, on va faire le tour. Et je me suis posé moi-même la question, David, alors est-ce que ça tu le vis? Est-ce que tu es au clair là-dessus? Est-ce que tu l'as bien compris? Ouais, c'est une façon aussi intéressante de s'examiner, n'est-ce pas? Donc j'aimerais aussi, parce que je pense que c'est important, que chacun puisse mettre de côté les soucis qu'il a, parce qu'on en a des soucis, hein. Et il est important de pouvoir mettre ses soucis de côté, ses peines, etc., ses tracas professionnels, familiaux. On en a tous et je vous demande si possible de faire une parenthèse, de déposer ça au Seigneur, puis de vous décharger, puisque il est difficile de marcher avec son fardeau en permanence, donc vous décharger pour pouvoir être le plus attentif à ce message. Voilà. Alors, on va commencer par la Bible. La Bible est-elle digne de confiance pour nous faire connaître, n'est-ce pas, les révélations de Dieu? Alors, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 2:13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voyez ? Donc, comme la parole, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu. Donc, nous considérons en tant que chrétiens que la Bible, c'est notre référentiel. C'est le texte fondateur, c'est le texte sur lequel nous pouvons nous appuyer. Alors, j'aimerais faire un petit commentaire à ce sujet. Il n'est pas question, me semble-t-il, lorsqu'on lit la Bible, d'avoir une approche, je dirais, mécanique. Tiens, je lis la Bible un chapitre par jour. Je lis la Bible, de façon religieuse. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de lire la Bible avec son cœur. Il s'agit de lire la Bible avec un désir de rencontrer Dieu, puisqu'il s'agit de son testament. Lire la Bible n'est pas un acte magico-religieux. Quand je dis magico-religieux, c'est-à-dire que lire la Bible ne va pas entraîner immédiatement dans vos vies la bénédiction. Vous allez avoir des épreuves. Si vous pensez que lire la Bible va écarter de vous les problèmes, non. Le Seigneur a souffert lorsqu'il s'est produit sur terre. Sa vie n'a pas été pavée de roses. Donc il n'est pas question de penser que lire la Bible c'est un acte magique qui va nous préserver. Non, au contraire, la Bible va nous éclairer. Et lorsqu'on est éclairé, on devient plus responsable. Et lorsqu'on est plus responsable, eh bien, on est appelé à agir différemment, on est appelé à se comporter différemment, ce qui n'est pas rien du tout. Ça engage à une plus grande, tension par rapport à notre identité chrétienne. Vous voyez, donc, la Bible, c'est avant tout, avancer avec Dieu, mais en soi, c'est un livre. Et je terminerai là-dessus. Si vous cherchez des secrets de Dieu dans la Bible, vous allez vous perdre. Il faut chercher Dieu dans la Bible. Et puis une autre chose, c'est que il y a un texte de la Bible qui dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Ça veut dire que si on applique à la lettre certains versets de la Bible, je vous assure qu'aujourd'hui je n'aurai plus de main droite, ni de main gauche, ni même un œil ou deux, puisque je les aurais déjà jetés dans le feu depuis bien longtemps, croyez-moi. Donc attention à ne pas vouloir appliquer la Bible à la lettre, de façon littérale, parce que sinon, on commencerait à avoir de graves problèmes, à titre personnel et au sein de la société. Donc voilà, il faut être prudent avec ces éléments-là. Donc ça, c'était concernant la Bible. Ensuite, j'aimerais parler, évoquer le deuxième point. Ça vous intéresse jusqu'ici? Ça va? Est-ce que je ne suis pas trop lourd? Me dites. Hein. Alors, Venons-en à l'identité de Dieu. Pour moi, l'identité de Dieu reste un mystère. Je ne sais pas pour vous, mais ça l'est pour moi. Mais cette identité nous est révélée par Dieu, par le Saint-Esprit, au travers de la Bible. Les différents prophètes qui ont parlé, Michée, Agée, etc. Oui, nous ont révélé des choses jusqu'au dernier livre qui est celui de l'Apocalypse. Donc il y a une révélation qui est là. Ce qui nous est révélé est suffisant pour ce qui nous est donné de comprendre, ce qui est nécessaire de comprendre. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, c'est déjà largement suffisant. Alors, quelle est cette identité de Dieu ? Pensez-vous que Dieu soit un homme dans le ciel ? Pensez-vous qu'il... Alors, je ne veux pas du tout infantiliser qui que ce soit ici, ni blesser qui que ce soit. J'essaye de m'amuser, quelque part, d'une certaine façon, dans le respect, bien sûr, des stéréotypes, des images toutes faites qu'on peut avoir. Mais qu'on peut avoir parce qu'elles nous sont transmises. Tout simplement, on peut être victime de ces images. J'en ai été moi-même victime. Donc, on peut se poser la question, Dieu est-il un homme ? Parce que quand on pense à Dieu, lorsque vous fermez vos yeux et vous priez Dieu, est-ce que vous voyez un homme ? Déjà. Est-ce que vous le voyez avec une barbe ? Est-ce que Dieu a un sexe ? On peut se poser la question. Parce que si c'est un homme, c'est forcément qu'il a un sexe. Moi, je ne connais que deux sexes sur Terre. Sexe masculin, sexe féminin. Est-ce que Dieu a un sexe ? Il faut se poser la question. Donc, vous voyez, il faut faire très attention au regard que l'on porte sur Dieu. On peut faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire avoir un regard finalement auto-centré, centré sur l'homme. Il n'en est pas question. Est-ce que Dieu est vieux ? Est-ce qu'il a les cheveux blancs ? Est-ce qu'il est jeune ? Vous voyez, c'est incroyable tout ça. Est-ce qu'il est blanc ? Est-ce qu'il est noir ? Est-ce qu'il est jaune, asiatique ? Est-ce qu'il est rouge ? Enfin, vous voyez, on peut se poser toutes ces questions. Donc, si par hasard vous aviez de telles représentations lorsque vous priez, dites-vous que ce n'est pas juste. Si en priant vous voyez un Dieu blanc, un Dieu noir, un Dieu petit, un Dieu grand, un Dieu barbu, un Dieu jeune, un Dieu vieux, c'est faux. Vous vous trompez. Vous vous égarez. Ce n'est pas ce que Dieu est. Ce n'est pas ce qu'il veut que vous ayez comme regard sur lui. Voilà. Et ça me concerne, bien entendu. Attention. Alors, Dieu n'a pas de papa, Dieu n'a pas de maman, juste pour préciser. Voilà. Alors, que nous dit la Bible sur Dieu ? Quels sont les premiers éléments qui nous permettent de savoir les contours, je dis bien les contours de son être ? Alors, déjà, la première chose, c'est que Dieu est amour. Voilà ce que j'ai lu. Dieu est amour, dans 1 Jean 4, 7, Dieu est amour, tout simplement. Ensuite, Dieu est éternel. Dans Psaume 92, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est amour, Dieu est éternel. Dieu est lumière. Dans 1 Jean 1, 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. C'est beau ça, hein ? Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, vous voyez, on est là sur des choses qu'on ne peut pas saisir. Pouvez-vous saisir l'amour ? Non. On ne peut pas saisir l'amour. Attrapez l'amour, voir. On ne peut pas le saisir. Attrapez la lumière. La lumière existe, on ne la voit que lorsqu'elle frappe, lorsqu'elle touche un objet. Sinon, on ne la voit pas. Les photons traversent l'espace, ils arrivent sur Terre. On peut voir la lumière sur sa peau, sur un mur, mais on ne la voit pas passer. Ça qui est extraordinaire. C'est un mystère, enfin. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Donc, ensuite, dernier point qui est formidable aussi, qui vient couronner ces éléments, alors qu'il y en a bien sûr d'autres. Dieu se définit comme celui qui est, le verbe être. Alors, je lis dans Exode 3, 14. Moïse dit à Dieu. Pardon, excusez-moi. Pardon, j'ai pas mis mes lunettes, excusez-moi. Moïse dit à Dieu. Ah, pardon, excusez-moi. Dieu dit à Moïse. Décidément. Hein. Dieu dit à Moïse. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Non, c'est Moïse qui dit à Dieu. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Et ensuite, Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, il répond. Ah, vous avez essayé de me déstabiliser là. J'ai résisté. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui est, celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Vous voyez, ça c'est je suis. Il n'y a pas de représentation. Dieu interdit qu'on fasse une quelconque représentation de sa personne. D'ailleurs, dans Deutéronome, etc., les livres anciens, il avait interdit que les hommes fassent une quelconque représentation de ce qui était en bas, de ce qui était en haut, les animaux, etc. Parce que le problème, c'est que ça conduisait souvent à l'idolâtrie. Vous voyez, donc il n'y a pas de représentation de Dieu. Chassez de vos esprits, autant que faire se peut, demandez au Seigneur, il n'y a pas de représentation de Dieu. L'esprit humain n'est pas capable de se le représenter. C'est un mystère. Quand je serai et quand nous serons tous ensemble, bien, dans les lieux célestes, bien, Dieu nous montrera. Il voudra bien nous montrer juste, peut-être juste ce qu'on pourra voir, ce qu'il voudra bien nous montrer. J'ignore. Personne ne peut le dire. On a vu Jésus, cependant. On a vu Jésus. Alors, ça, c'était donc le deuxième point, l'identité de Dieu. Quelle est-elle ? Est-ce que nous sommes au clair là-dessus ? Chérissons ces points, amour, lumière, voilà, on pourrait dire vérité, on pourrait rajouter beaucoup de choses, voilà, et l'éternité. Le troisième point, alors, je remets mes lunettes. Le message principal du Nouveau Testament, je me focalise là-dessus, est le suivant, vous l'avez tous compris, c'est dans Matthieu 12, versets 30 à 31, c'est un point important de ce qui fait la théologie chrétienne. C'est « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second commandement, entre guillemets, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Vous voyez, ça, c'est le cœur de l'Évangile. Quand on se dit qu'on est chrétien, ben, s'il y a un verset, s'il y a un point, c'est ça. C'est un point. Et donc, c'est Jésus qui nous l'apporte aussi. Ensuite, déroulons le quatrième point. Tous les hommes sont pécheurs par nature. C'est un point important de la révélation. Tous les hommes sont pécheurs par nature. En naissant, on porte en nous les germes de la désobéissance et donc du péché, en germe. Notre nature de pécheur n'est pas liée à ce que nous aurions fait. Certains vont dire, mais moi je n'ai volé qu'une pomme après tout dans ma vie. D'autres diront, ben, moi j'ai insulté quelqu'un. Puis l'autre dira, moi j'ai tué un homme. Mais peu importe, la nature pécheresse n'est pas liée au degré ou à l'intensité du mal que vous auriez pu faire. C'est pas ça. C'est que même si je n'aurais volé qu'une pomme, ce que Dieu nous révèle, c'est que je suis capable de tuer un homme. Je suis capable de tuer un homme. C'est ça le vrai problème. C'est que c'est profondément inscrit, tout le mal est inscrit dans le cœur de l'homme et peut potentiellement se réaliser à l'occasion de telle ou telle situation. Vous voyez, donc inutile de se voiler la face en pensant qu'on est bon ou qu'on est quand même meilleur que ou que on n'a pas tant péché que ça. Ça ne change rien du tout. Sinon, on n'aurait pas besoin d'un sauveur. On n'aurait pas besoin d'un sauveur. Donc, ce point est très important. Nous sommes pécheurs par nature et par conséquent, si on est pécheur, bien, notre cœur est ennemi de Dieu. Il y a une hostilité naturelle et voilà pourquoi est-ce que nous sommes condamnés si nous ne nous repentons pas, si nous n'avons pas accès à Dieu, si nous ne le recevons pas, cette nature, ce qui est un état de fait, nous condamne. C'est ce que nous révèle l'Évangile. Alors, lisons la Bible. Dans Romains 3, 23. car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un autre verset, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le péché, j'aimerais insister là-dessus. Le péché, vous savez, on en a fait quelque chose de... C'est moraliste, vous voyez, une approche moraliste. Dieu n'est pas moraliste. La morale est humaine. Dieu n'est pas moraliste. Le bien, le mal, c'est pas tellement ça. C'est que le péché, c'est tout ce qui contribue à faire de toi un ennemi de Dieu. C'est tout ce qui contribue à faire de toi quelqu'un qui va dans le sens contraire des desseins de Dieu. C'est le fait d'échouer dans la mission que Dieu a imaginée pour toi. Le péché, c'est manquer la cible. Littéralement, c'est ne pas atteindre le but fixé, le but attendu. Dieu avait un plan pour nous, un plan merveilleux. Adam et Ève ont échoué. Ne sont pas rentrés dans ce plan. Il y a un échec. Donc en réalité, péché ou le péché, c'est être à côté du plan. Peu importe ce qu'on fait, c'est à côté du plan. C'est s'égarer, si vous voulez. Donc il faut enlever la question moraliste, culpabilisatrice. On n'en est pas là. Dieu n'est pas là pour nous culpabiliser. Il est là pour nous dire, réfléchis et prends des décisions. C'est tout. Réfléchis, prends des décisions. Le péché... campe à ta porte, décide ce que tu veux faire. Voilà. Donc, nous sommes tous pécheurs par nature. Très bonne nouvelle. On passe au prochain point. Dieu nous aime depuis le commencement. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Je m'étais affectionné à faire une étude biblique sur la Genèse, Adam et Ève, dans leur premier temps avec Dieu. Et on s'est aperçu là de tout l'amour que Dieu avait manifesté pour eux. Toute la douceur que Dieu avait pu manifester à Adam et Ève, quand bien même ils ont désobéi. Après même qu'ils ont désobéi, il a quand même continué à les chérir, à leur parler, à les aimer. Depuis le commencement, Dieu aime l'homme et la femme qu'il a créé. Dieu nous aime. À tel point qu'il y a un verset qui dit, donc c'est le verset Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a toujours aimés. Vous ne pouvez pas douter de ça. Personne ne peut douter de ça. Dieu nous a toujours aimés. Il est évident qu'il nous a aimés. Quand je regarde la nature, je m'imagine que la personne qui est derrière les merveilles, une fleur, un moustique, une mouche, quoi que ce soit, il s'agit de merveilles, pas besoin d'aller voir l'éléphant ou le dauphin. Tout est merveilleux, tout est merveilleux. Tout reflète la gloire de Dieu. Et Dieu nous a donné des yeux pour le voir, c'est qu'il avait une intention envers nous. C'est merveilleux. Donc Dieu nous a aimés. Et ça, c'est, je vous parle des choses matérielles, mais le plus important, c'est qu'il ait envoyé Jésus, son Fils unique, pour nous sauver, afin que nous ne soyons pas condamnés. Le message d'amour de Dieu est là. La lettre de Dieu, c'est Jésus. Sa lettre qu'il a envoyé du ciel, c'est Jésus. Alors, un deuxième verset, Jean 4, 16, qui atteste, n'est-ce pas, de l'intention de Dieu en ce qui concernait Jésus. Jean 14, 16, pardon, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu a voulu nous aimer par Jésus. Dieu a voulu que Jésus soit notre représentant, soit celui qui représente l'humanité. En aimant Jésus, Dieu nous inclut en Jésus et nous aime tous. Dieu nous rassemble en Jésus. Dieu nous pardonne en Jésus. Dieu nous unifie en Jésus. Dieu nous donne un nouvel avenir en Jésus. L'amour de Dieu est contenu dans la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Alors, passons au prochain point. Jésus a une identité extraordinaire. Je vous avouerai que ça me fait encore réfléchir, parce que on peut démontrer certaines choses avec les mathématiques, peu, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas démontrer. Comme par exemple le fait que Dieu soit éternel. Qui peut m'expliquer ça, vous voyez? Ceci a une origine. Je peux m'imaginer que quelqu'un, il y a un temps zéro pour ce flyer. On l'a imaginé, on l'a dessiné, on l'a écrit, on l'a imprimé. Mais dire que Dieu est éternel, ça dépasse nos capacités cognitives. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. On le dit, mais Dieu est éternel, c'est une évidence. Mais on ne peut pas comprendre ça. Alors qui a créé Dieu ? Dès qu'une chose existe, pour nous, c'est qu'il y a un commencement. Sauf que Dieu n'a pas de commencement, donc ça pose un problème. Donc à un moment donné, on voit bien qu'il faut faire un saut et se dire, c'est plus dans mes capacités humaines. Il faut faire peut-être le saut de la foi. Voilà, il y a un saut à faire en tout cas. Donc c'est pareil pour Jésus. Les gens disent, mais c'est évident, c'est le Fils de Dieu. C'est la parole faite chair, mais c'est évident. Non, ce n'est pas si évident que ça. Il y a un mystère derrière. C'est extraordinaire. Donc, qui était Jésus ? J'ai sélectionné quelques qualificatifs le concernant. Il était donc pleinement homme. À plusieurs reprises, il a dit « Je suis le Fils de l'homme ». Il a insisté pour bien qu'on ne nie pas, qu'on ne dénie pas ce qu'il était. Il a insisté « Je suis le Fils de l'homme ». Il a quand même dit « Mais, il y a d'autres points ». Dans la Bible, on voit qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, le Saint de Dieu. Que dit-on que je suis ? Pierre a dit à Jésus, tu es le Saint de Dieu. Et Jésus lui a dit, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Tu es le Saint de Dieu, le Saint, S-A-I-N-T, le Saint de Dieu. Le Fils de Dieu, le Sauveur, l'empreinte de sa personne, la parole de Dieu dans Jean, la lumière du monde, la vérité, la vie. C'est incroyable, ça fait beaucoup pour Jésus. Donc voilà, c'est formidable, je ne vais pas plus loin là-dessus. C'est formidable, Jésus a une identité extraordinaire. Il n'y a pas de salut sans repentance préalable. C'est un autre point. Il n'y a pas de salut sans repentance préalable. Et le baptême suppose que l'on se soit repenti au préalable. Se faire baptiser sans préalablement et sérieusement s'être repenti n'a donc aucune valeur et aucun sens. Donc je répète, si on se fait baptiser et qu'avant on ne s'est pas repenti, ça ne veut rien dire. Ça ne sert à rien. Jean le Baptiste a enseigné et a fait le baptême de la repentance. Repentez-vous, race de vipères, disait-il à ses contemporains. Repentez-vous, c'était le baptême de la repentance. On ne peut pas venir à Dieu sans plier le genou, mettre le genou à terre, voyez, et dire, je fais un point, mon Créateur, je fais un point, Seigneur. Donc la repentance. Il n'y a pas non plus de relation à Dieu sans repentance régulière. On ne fait pas sa repentance une fois, et puis après c'est fini. La repentance, vous savez, c'est des allers-retours, une conscience qui s'examine, et on se dit, ah Seigneur, ah tiens, là-dessus, là je ne suis pas bien, là je ne suis pas clair, là j'ai fauté, là je n'ai pas été conforme à ton esprit, à ta vérité. Donc on s'examine. Donc le salut, c'est conditionné à une repentance préalable. Alors, regardons dans Actes 19, verset 3-4. Actes 19, verset 3-4. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. » Dans le verset 1 Jean 1,9, il est aussi dit, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous voyez donc, la Bible nous enseigne que nous devons confesser nos péchés et qu'ainsi, Dieu qui nous aime, qui nous a réservé son pardon en Jésus, est vraiment disposé à nous pardonner et à nous purifier de toutes ces iniquités. Mais ça demande une repentance. Matthieu 4,17 dit, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc la question de la repentance est quand même centrale quand on dit qu'on est chrétien. S'il n'y a pas l'esprit de repentance envers ton épouse, s'il n'y a pas l'esprit de repentance envers ton mari, s'il n'y a pas l'esprit de repentance envers un camarade que tu aurais blessé, qui que ce soit, un frère, une sœur que tu aurais blessé, ça ne va pas. Il faut pouvoir dire, bon, mais là, j'ai pas été bien, je demande pardon. Il faut savoir dire, je demande pardon, pardonne-moi, accepte de me pardonner, dites-le comme vous voulez. Il faut savoir dire pardon, pardon, c'est tout. C'est bon de dire pardon, hein, faut le dire. Donc la repentance, pardon à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Alors, revenons sur le baptême. Je ne finirai pas le message que j'ai prévu parce qu'il n'y aura pas de temps. Il n'y aura pas assez de temps, je le vois, mais ce n'est pas grave. Je m'arrêterai d'ici 10 minutes. À 11h30, je pense qu'on va s'arrêter. Il fait chaud, ça fait beaucoup de choses et puis ça me donnera l'occasion de revenir discuter un peu avec vous. Alors, revenons sur le baptême. Et là encore, un point important. Le baptême est un acte qui est tout à fait dans l'orthodoxie, dans la théologique. Donc c'est quelque chose que Jésus a souhaité. Jésus lui-même s'est fait baptiser. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Et que vous fassiez baptiser, lorsque vous avez cru, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais vous dire une chose, au cas où il pourrait y avoir un doute, surtout pour les jeunes baptisés ou pour ceux qui pensent se faire baptiser. Le baptême en lui-même ne purifie personne. Le baptême, je répète, ne purifie personne. L'eau qu'on vous verse sur le corps, sur la tête ou que sais-je, n'a pas de pouvoir magique. Ça ne vous fera rien. Ça ne vous guérira pas de vos maladies. Peut-être que peut-être que par miracle, Dieu fera en sorte que le jour de votre baptême, vous soyez guéri de votre maladie. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas ça la signification du baptême. Vous voyez ? Donc, le baptême ne purifie ni le corps, ni l'âme, il ne purifie personne. Il ne donne, d'autre part, aucune garantie d'être sauvé. C'est pas parce que je me suis fait baptiser que je vais être sauvé. C'est pas parce que je me suis fait baptiser que je suis purifié. Tout se passe avant. Tout se passe avant. Dans l'ombre, personne ne le sait. Dans le secret du cœur entre vous et le Seigneur. Personne ne sait ce qui se passe. Il n'y a que vous qui savez. Et une fois qu'on est prêt, une fois qu'on a donné son cœur à Dieu, qu'on s'est repenti, qu'il y a eu la nouvelle naissance, et qu'on a choisi de marcher en nouveauté de vie, ben on se fait baptiser. Mais le baptême en lui n'est pas un acte magique. J'ai connu des personnes qui se sont fait baptiser, en pensant que ça allait changer leur vie. Ils se sont égarés pendant plusieurs années comme ça. Donc il faut faire attention. L'esprit vivifie, la lettre tue. Si on pense que se faire baptiser en soi, c'est quelque chose parce que c'est écrit, et qu'il manque l'esprit, donc la conversion, la repentance, il ne se passera rien. Ça, c'est très important. Malheureusement, on a baptisé, c'est-à-dire l'histoire nous a montré qu'on a pu baptiser de façon traditionnelle, de façon culturelle, alors qu'il s'agit d'une véritable opération qui sollicite le cœur, l'esprit, entre l'homme et Dieu, entre la femme et Dieu. Voilà, il faut qu'il y ait une histoire. Donc, alors, qu'est-ce que le baptême ? Alors, qu'est-ce que ce n'est pas ? On vient de voir ce que ce n'était pas. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, simplement, le baptême, c'est une identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. On meurt avec lui, on ressuscite comme lui, n'est-ce pas ? Et c'est un engagement formel et solennel à suivre Dieu honnêtement. On suit Dieu honnêtement. On n'a pas dit parfaitement. Honnêtement, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous voyez, parce qu'on est faillible. Vous voyez, donc je lis le verset, Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc nous sommes ensevelis et nous ressuscitons pour marcher en nouveauté de vie. Mon acte de décès a été prononcé, vous voyez. Donc je vais mourir deux fois. Je suis déjà mort une première fois. Enfin, je suis mort trois fois, puisqu'en fait, en tant que pécheur, j'étais mort. Je suis mort symboliquement avec Christ par les eaux du baptême. Et je vais mourir un jour. Mon corps va dire au revoir. Ouais, il y a plusieurs morts. Hein. Enfin, là, c'est une petite boutade de ma part. 1 Pierre 3, 20 à 22. Cette eau était une figure du baptême. Le baptême, c'est du déluge. Là, on fait référence au déluge du temps de Noé. Donc, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. La Bible insiste là-dessus. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça, j'aime beaucoup ce passage. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Vous voyez, le baptême, c'est ça. Il me reste 3 minutes parce qu'il fait chaud. Je ne finirai pas, mais c'est pas grave. Alors, le salut de Dieu. Venons-en au salut. Le salut de Dieu par Jésus-Christ s'obtient par quoi ? Par grâce, j'ai entendu. Oui, il s'obtient par grâce. Uniquement, et par la foi. Vous voyez, grâce et foi. En l'œuvre de donc s'obtient par grâce uniquement et par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ crucifié en rançon de nos péchés et ressuscité par la grâce de Dieu. Nul ne sera sauvé par ses bonnes actions. Nul ne sera sauvé par ses œuvres. Nul ne peut acheter son salut d'une quelconque façon que ce soit. C'est impossible. On ne peut pas acheter le salut, pas donner de l'argent pour avoir une place dans le ciel. On ne peut pas, c'est pas possible. Alors, nous allons voir Éphésiens 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voyez, là, Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, vous savez, dans les religions hindouistes, l'homme s'élève vers Dieu. Par la méditation, les hindouistes pensent qu'ils peuvent s'élever vers Dieu et purifier leur âme et arriver à un stade, vous savez, de nirvana. C'est transcendantal, vous voyez, on quitte le corps, le troisième œil, le quatrième œil, le cinquième œil, le sixième œil, enfin j'en sais rien. Tout ça pour vous dire que on peut s'élever vers Dieu, mais dans l'évangile, c'est le contraire. C'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui s'abaisse. C'est Dieu qui revêt une forme humble. C'est incroyable. Et du coup, il nous prend avec lui. Donc nous ne pouvons pas nous élever vers Dieu par nos propres forces. Dieu nous élève. Dieu nous élève. C'est lui qui le fait. Dieu nous élève. Il a ce pouvoir. D'autre part, Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. C'est pour vous dire que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc la foi, la grâce. La foi, la grâce. Vous voyez, toutes ces choses sont importantes. Il est bon de les rappeler. Alors je ne sais pas, vous me dites quand vous êtes fatigué. Je peux continuer un peu ou m'arrêter. On fait un petit sondage, vous me dites. Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu ? Vous êtes sûr ? 10 minutes peut-être ? Ça va 10 minutes ? Oui ? 5 ? 5 ? Bon. Allez, on va commencer par 5. Et puis si je vois qu'il y a des personnes qui ont une défaillance, ben on va s'arrêter. Alors, devenir enfant de Dieu, comment est-ce possible finalement ? La Bible m'enseigne et vous enseigne que c'est possible si l'on naît de nouveau, naître de nouveau, une nouvelle naissance. Par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la foi, vous voyez, il y a beaucoup de conditions. Alors, que dit Jean 3:3 ? Gérard, je sais que tu aimes beaucoup ce verset. Gérard, je le lis aussi pour toi. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. C'est une opération spirituelle. C'est... Naître de nouveau, c'est ouvrir les yeux quelque part. C'est les écailles qui tombent, un peu comme ça s'est passé pour Paul. Il a compris quelque chose. C'est la lumière qui vous éclaire. Dieu vous éclaire de sorte que vous comprenez. Vous comprenez qui est Jésus, vous comprenez l'enjeu de la vie, de la mort, et vous le saisissez par la foi. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il y a une nouvelle naissance, quoi. Il faut, les yeux s'ouvrent, les écailles tombent. Pour simplifier, je n'ai pas beaucoup le temps de développer. Nous passons à Jean 1:12 à 13. Jean 1:12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, ça c'est dans Jean, à ceux qui croient en son nom, on parle de Jésus, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, la parole, Jésus, est la personne. C'est la personne. Je ne dis pas la Bible. C'est pas la Bible. Quand on dit la parole de Dieu, il pourrait y avoir une confusion. C'est pas la Bible qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible n'est pas un livre magique. Il ne se passera rien avec la Bible. Il faut qu'il y ait l'opération du Saint-Esprit. Dieu en action. Dieu vivant. C'est par la... Pardon. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je parle de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang. Vous voyez, cette naissance n'est pas liée au sang. Ah ben je suis le fils de, la fille de, pas du tout. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On voit bien que lorsque quelqu'un accepte Jésus comme sauveur, franchement, on peut pas accepter Jésus par un raisonnement mathématique. C'est pas possible. C'est une folie. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie. Croire qu'un homme, déjà, est le Fils de Dieu, est la parole de Dieu incarnée. Croire que le fait qu'il se soit fait crucifier, c'est un salut pour nous. Il y a des gens qui disent, mais c'est une folie, ça veut rien dire. C'est un échec, regardez. Regardez sa fin, elle est triste. Ils ne comprennent pas. Pour voir l'acte de rédemption qu'il y a derrière la crucifixion et la résurrection de Jésus, il faut être éclairé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible sinon. Ce n'est pas possible. Voilà, donc la nouvelle naissance. Allez, un dernier point. Je vais plus vite. Jésus est bien mort. Jésus est bien mort, crucifié. Personne ne l'a remplacé sur la croix. Alors, ça peut vous choquer ce que je dis, mais il y a des rumeurs, il y a des théories trompeuses qui disent que non. Jésus était tellement saint, était tellement bon, qu'il ne pouvait pas finir comme ça. Jésus n'est pas mort. Personne ne l'a crucifié. Dieu l'a sauvé. Écoutez ce que je vous dis, hein. Dieu a sauvé Jésus, le préservant du châtiment. Donc de la croix. Donc certains disent, non. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place de Jésus. Jésus n'est jamais mort à la croix. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est diabolique. Si on dit ça, on annule. On annule purement et simplement le don de Dieu, le salut des hommes. Si Jésus n'est pas mort, alors je suis mort éternellement. Je suis mort. Je n'ai plus d'avenir. C'est terminé. Si Jésus n'est pas mort, je n'ai plus d'avenir. Donc, je crois, personnellement, et j'espère que vous le croyez aussi, que Jésus est bien mort crucifié. Alors, que nous dit la Bible ? Lisons. Dans Luc 23, 33. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus est ressuscité après avoir été crucifié. C'est clair, c'est ce qui nous est dit. Il fut cloué. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Ça veut dire qu'il mourut. Il mourut. Jésus est donc mort. Dernier point, après je m'arrête. Jésus est bien ressuscité. Parce que là aussi, ça peut poser souci à certains. Certains nient le fait que Jésus soit bien mort, et certains nient aussi le fait qu'il soit ressuscité. Vous voyez, donc ça pose là aussi un problème. Donc, je vous rassure, les ossements de Jésus ne se trouvent aujourd'hui dans aucun tombeau. C'est ce que nous croyons. Non, dans aucun tombeau. Et entre parenthèses, s'attacher au linceul de Jésus n'est qu'une idolâtrie. Ça n'a aucune importance, savoir où est-ce qu'on a un seul, etc. Je ne m'y intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne de Jésus-Christ et celui qui l'a envoyé. Le linceul, ce n'est pas important. D'accord. Alors, que nous dit le texte biblique par rapport à la résurrection? C'est le dernier verset, les deux derniers versets. Puis après, on va clôturer la matinée. Donc Matthieu 26, 5, 6. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il est ressuscité. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. » Donc un ange était là, près du tombeau. Dans 1 Thessaloniciens 14, 14, il est écrit « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Donc on comprend bien que on ne peut pas avoir de vie. Enfin, l'évangile, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Il nous dit qu'il nous donne sa vie. On ne peut pas imaginer entrer dans la vie de Jésus s'il ne l'a pas donné et s'il ne l'a pas reprise, s'il ne l'a pas récupéré. Dieu a redonné vie, Dieu a ressuscité Jésus. Comment pourrions-nous ressusciter si celui qui nous représente lui-même n'est pas ressuscité? Vous voyez, ça serait aberrant, ça serait absurde. Donc ceux qui s'attaquent à l'évangile, au message de l'évangile, frappent souvent sur ces deux points. Mais Jésus n'est pas mort, finalement. Il était trop bon. Vous voyez, c'est astucieux, vous voyez, c'est pernicieux, c'est vicieux. Il était trop bon. Et d'autres disent, ah non, mais il n'est pas ressuscité. Donc s'il n'est pas ressuscité, c'est un échec. Il est mort, il a donné sa vie, vous voyez, mais il n'est pas ressuscité. Ça pose plusieurs problèmes. Donc, je pense m'arrêter là, il y a d'autres éléments. Mais vous voyez, c'est intéressant de faire un petit tour d'horizon, comme ça, de ce en quoi nous croyons. Ce en quoi nous croyons. Il y a de telles influences aujourd'hui dans notre monde, où même dans la communauté chrétienne au sens large, hein, je dirais la communauté protestante, on entend de tout. On entend de tout. Ça peut aller loin parfois. Nous sommes attachés à Dieu. Nous sommes attachés à sa parole vivante. Quand je dis sa parole vivante, c'est à Jésus-Christ. Nous sommes aussi attachés à sa parole concrète, c'est-à-dire la Bible, donc le texte, oui, la parole. Et nous défendons pour nos vies, nous défendons par honneur pour Jésus, pour Dieu, son message, parce que nous voulons être fidèles à son message. Si nous transmettons ce message avec fidélité, la vie se répandra. Il se passera quelque chose. Le Saint-Esprit pourra parler. Mais si nous tordons la vérité, alors nous devenons inutiles. Il est important d'être de bons gardiens de la parole de Dieu, d'être bons gardiens et de la préserver dans son authenticité, dans son intégralité, dans son intégrité. Ça, toutes ces choses sont importantes. Donc, nous allons prier. Je vais faire une prière toute simple pour vous, pour moi. Et je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Alors, Seigneur, notre Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie de tout cœur de t'être fait connaître à nous tout d'abord. Je te remercie de nous avoir fait connaître ton Fils, ta parole, de nous avoir révélé Jésus, chose formidable. Je te remercie d'avoir envoyé Jésus parmi nous. Je te remercie de nous avoir communiqué le Saint-Esprit. Je te remercie de nous avoir communiqué le texte biblique pour que nous ayons un testament, un support avec lequel avancer. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour tous les enfants ici présents qui sont nés de nouveau, qui ont accepté de croire en toi, en ta mort, en ta résurrection, en ton pardon, en la rédemption de la croix. Seigneur, nous présentons devant toi, humblement, simplement, nous voulons te ressembler. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous lorsque nous ne te comprenons pas. Pardonne-nous lorsque nous nous retirons de toi. Pardonne-nous lorsque nous nous opposons à toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. En Jésus-Christ, Seigneur, nous plions genoux. Qui peut résister à la parole de Jésus-Christ et à son don, au don de sa vie, à sa passion pour nous? Merci de nous révéler cela, Seigneur. Amen.